RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
Retour dans Mardi politique sur France 24 RFI avec Jean-Louis Borloo qui tape du poing sur la table, qui aime bien, on sent l'énergie de ce nouveau soutien que vous donnez à donc Emmanuel Macron. On parlait il y a un instant de cette culture de la coalition que la France n'a pas. J'imagine que vous parlez d'une coalition à l'allemande. C'est vrai que Macron, dans le fond, a promis d'exploser le système. Il a explosé la gauche, c'est à peu près fait. Est-ce que Marine Le Pen peut faire exploser la droite ?
Non, c'est pas. Non, Marine Le Pen, elle peut mettre à mort la droite.
C'est son but.
C'est la stratégie de son père et d'elle. Alors, elle le fait différemment, bon, très bien. Mais enfin, c'est quand même l'objectif. Bon. Mais la situation, c'est que la droite et le centre n'est pas présent au second tour de la présidentielle.
Pour la première fois.
C'est une première sous la Ve République. Bon. Alors, faut changer les institutions. Non, mais on n'est pas, voilà, c'est un peu commode. Bon, pourquoi pas d'ailleurs, mais c'est un peu commode. Bon. Il va juste falloir, assez probablement, je sais pas, moi, s'il y aura une majorité en marge du président, sinon, il faudra bien...
Vous pensez qu'il pourra constituer cette majorité?
C'est les Français qui décideront. Moi,
Est-ce que vous craignez que Marine Le Pen rentre en force à l'Assemblée nationale, même si elle perd l'élection présidentielle?
Pas crainte ou pas crainte. Il y aura un groupe, je pense, Front National. C'est leur place. Enfin, je veux dire, c'est pas... une force politique qui est présente au deuxième tour de l'élection présidentielle, soit présente au Parlement, me paraît naturelle. Ne me demandez pas si c'est souhaitable, mais ça me paraît légitime en tous les cas. Voilà, légitime et naturel. Bon. Là-dessus, j'ai pas de sujet avec ça. Simplement, il peut arriver qu'on se retrouve dans une situation sous la Ve République où pour la première fois, peut-être qu'un président n'aura pas la majorité absolue de ses candidats aux législatives.
Malgré la dynamique de la victoire.
Oui, ça peut arriver. Une fois de plus, les Français décideront. Ça peut arriver. Ça nous amènera à avoir des débats. Et moi, je suis pour des positions adultes. Adulte, c'est-à-dire sortir des schémas habituels et traditionnels dans ces cas-là. S'il y a un plan ou un programme qui regroupe un certain nombre de choses, c'est pas de la cuisine politicienne. Les Allemands, ils rédigent. Vous savez que, à la fin de l'élection, dans toute cette période, c'est un document de 150 pages. Tout ce qui n'est pas lié à l'imprévu est parfaitement rédigé et donc parfaitement appliqué. C'est pas la culture de la France, ça sera peut-être pas un document de 150 pages, mais un document de 30 pages, mais nous n'en sommes pas là.
Mais cette coalition, vous la souhaiteriez,
on n'en est pas là, mais
avec la droite,
ce que je ne voulais pas tout à l'heure, mélanger les agendas, je veux pas plus maintenant. Je peux vous parler de ce qui me paraît nécessaire pour d'autres pays, mais je ne veux pas rentrer dans le débat de l'organisation post-législative, alors que nous n'avons pas terminé la présidentielle.
Pour répondre,
même que j'ai pas envie qu'on parle des régionales dans 2 ans, vous voyez.
Alors, on va reprendre peut-être je trouve qu'on est passé un peu vite sur l'attitude quand même des Républicains dans celui de la droite. Est-ce que vous comprenez l'attitude de certains à droite qui combattent autant Macron que Marine Le Pen? On a parlé tout à l'heure, il y a un instant, de Jean-Luc Mélenchon qui avait à peu près la même attitude. Est-ce qu'à droite, vous êtes scié par certaines réactions dans votre camp qui est celui de la droite?
Surtout, je ne le comprends pas. Voilà. Je comprends bien qu'il soit difficile, dans d'autres circonstances, d'appeler à voter pour un candidat qui n'est pas le vôtre au premier tour. Voilà. Je comprends en plus sur la droite, espèce de sentiment que la droite se serait fait voler l'élection, qu'il y a une grosse frustration, que c'est la faute des juges, enfin bref, faute de la peuple. Je comprends très bien ça. Mais simplement, ça, ça sera pour après, pour les législatives. Si l'élection a été volée, tirons-en les conséquences, c'est qu'elle est assez costaud pour gagner les législatives. Et donc pour avoir un gouvernement de droite et du centre. Donc je ne comprends pas du tout. Je vois bien les frustrations.
Vous voyez bien les explications qu'ils mettent en avant. Par exemple, quelqu'un comme Laurent Wauquiez dit, voilà, on va pas appeler à voter Macron, alors que le 8 mai au matin, Macron président, on est obligé de partir en campagne pour les législatives et appeler et parce que à combattre Macron.
Et alors, et parce que vos électeurs, ils comprennent pas.
Ça vous paraît court, comme un...
Ah non, parce que vous pensez que vos électeurs sont complètement analphabètes. Ils comprennent pas qu'il y a un match face à Marine Le Pen, et puis il y a une campagne pour le Parlement, le gouvernement. Non, non. Les lecteurs, il est complètement sous en dessous du chapeau. Bon. Évidemment qu'ils comprennent très très bien. Voilà, ils comprennent très bien. Ils comprennent très très bien qu'une prime. Non, c'est une mauvaise analyse politique. Ils comprennent très très bien que une progression du Front National, c'est quand même d'abord à leur détriment. Oui. Ils comprennent.
Donc erreur de stratégie de certains à droite.
En tout cas, je ne comprends pas, et je pense que à la fin, je souhaite vraiment que de tous les électeurs de Fillon. Et une grande partie de ceux de Nicolas Dupont-Aignan, évidemment, vote pour les présidentielles pour Emmanuel Macron et pour les législatives pour leur candidat. C'est d'ailleurs, je rappelle que le gouvernement de la France, c'est le chef du gouvernement qui dirige l'action du gouvernement. Que la ligne politique est donnée par le gouvernement de la France, qu'il y a déjà eu un président de gauche avec un gouvernement de droite, enfin tout ça a déjà existé, donc je vois pas du tout où est la grande difficulté. Simplement, il faut en même temps accepter l'idée qu'il y a une nouvelle donne, qu'Emmanuel Macron propose quelque chose qui en même temps séduit un certain nombre de Français, voilà, espèce d'élan quand même de modernité. Je veux dire, il a des réflexes qui ne sont pas les miens. Par exemple, une société a besoin des deux, probablement. Mais enfin, qu'il y ait un peu cet élan, cette modernité, cette jeunesse, ce nouveau monde, c'est quand même pas complètement absurde pour notre pays.
Qu'est-ce qui pourrait vous faire peur chez lui et qu'est-ce qui pourrait vous déplaire au-delà, effectivement, de tout ce que vous venez de décrire à l'instant? Quel peut-être, s'il est élu... petit conseil, vous pourriez...
Je n'ai aucun conseil, moi j'ai aucun conseil
pour éviter quelques écueils, tout à l'heure vous disiez, on sait...
D'abord, j'ai aucun conseil à donner, on me sollicitait, je le dirais à la personne qui me sollicite. Moi, ce que je souhaite, pour vous dire les choses simplement, c'est que s'il est président de la République, et s'il y a globalement, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une équipe parlementaire gouvernementale, si possible, compatible. Voilà. Commencer par être en hostilité, avant de commencer, ça me paraît un peu bizarre. Bon. Et je souhaite que dans tout ceci, il y ait un élan. Voilà. Qu'on fasse le pari de l'audace. Qu'on fasse le pari de la jeunesse.
On a bien compris que les centristes étaient très séduits par Emmanuel Macron.
Mais ils auront quand même leur candidat,
François
madame.
François Bayrou le rejoindre, d'ailleurs, du MoDem. Est-ce que vous pensez que cette séduction pourrait aller jusque aux centristes de l'UDI, votre ancienne formation?
Mais je vous ai dit que je ne rentrerai pas dans l'agenda d'après. Vous ne m'emmènerez pas.
Alors, non, ça leur veut auprès de l'heure.
Je vous connais tous par cœur. Je connais en plus le commentaire du commentaire
du commentaire.
Pas facile. Oui, mais il n'est pas toujours lui.
Il a dit que... Et on va rentrer dans un débat qui n'est pas...
On ne peut pas faire de politique politicienne avec vous.
Invitez-moi, si vous voulez, dans 15 jours. Non, je ne sais pas combien de temps, dans 5 semaines.
Si on va vous réinviter, si vous ne répondez pas aux questions.
Mais non, mais attendez, ce que je le dis, c'est clair.
Bien. Non mais vous avez tout à fait votre droit. Je suis obligé de vous poser quand même une question sur. Je vous demandais tout à l'heure si Marine Le Pen pouvait faire imploser la droite. Regardez ce qui s'est passé avec Nicolas Dupont-Aignan et surtout écoutez la réaction de Xavier Bertrand sur l'attitude de Nicolas Dupont-Aignan. Et là, vous ne pourrez pas vous échapper.
Lui qui se disait gaulliste, vous rappelez de ce que disait le général de Gaulle, ceux qui font leur petite soupe sur leur petit feu, elle est où la France dans tout ça? Quand on voulait se proclamer comme le général de Gaulle et qu'on finit comme Pierre Laval, c'est ça le destin de monsieur Dupont-Aignan?
Voilà, finir comme Pierre Laval, est-ce que vous êtes aussi dur sur Nicolas Dupont-Aignan? Et est-ce que vous considérez que ce qui s'est passé, c'est-à-dire cette nouvelle alliance, eh bien, n'augure rien de bon pour la droite? Est-ce que c'est une première digue qui a sauté?
Non, honnêtement, non. Je crois pas.
Non,
non, je crois pas. Voilà, il y a le Front National a une stratégie qui est claire depuis 40 ans. Elle est évolutive. La forme change, les êtres changent, mais enfin, le projet politique, lui, reste le même fondamentalement.
Mais là, il se trouve un partenaire.
Le Front a eu Maigret dedans, Maigret dehors, peut avoir Dupont dedans, Dupont dehors, je veux dire, bon, voilà. La question, c'est est-ce que la France, dimanche soir, a choisi une candidate, une présidence de la République d'extrême droite, voilà, ou de droite extrême.
C'est la seule question qui va.
Je n'insulte personne.
C'est la seule raison qui vous fait sortir de votre silence, d'ailleurs.
Oui. D'ailleurs, entre Dupont-Aignan, qui est quand même la première alliance qui arrive à nouer le Front National, plus les deux tiers des électeurs mélenchonistes qui vont s'abstenir ou voter blanc, est-ce que vous pensez que le risque est encore plus grand, le péril à vos yeux, que Marine Le Pen l'emporte dimanche?
À partir du moment où vous avez un deuxième tour, vous avez, je sais pas combien, 40 millions de Français qui vont aller voter, ou 47 électeurs, donc 35 qui vont aller voter, je sais pas très. D'ailleurs, j'en appelle aux abstentionnistes du premier tour. On est sur autre chose. Et vous pouvez être un abstentionniste du premier tour et vous mobiliser là pour le deuxième tour. Et ça me paraît même d'ailleurs un réservoir réel, qui ne m'enveille pas de parler en termes automobiles, mais non, mais je pense que voilà, on peut être parfaitement abstentionniste au premier tour et avoir envie de se mobiliser au deuxième tour. Le reste, on verra après. Mais je dis que dans tout ça, c'est pas tout à fait neutre pour nos partenaires, pour nos partenaires européens et pour nos partenaires africains.
Alors, je voudrais comprendre ce que vous aimeriez voir au lendemain, au pluriel, parce qu'évidemment, ce ne sera pas le 7 mai, mais les jours d'après. Vous voudriez que la France ressemble à quoi, dans le fond? Dans la tête de Jean-Louis Borloo, la France, la nouvelle France, celle que vous devez décrire, si on vous écoute, si on en croit votre...
Ouais.
Eh bien, votre côté joyeux sur la candidature de Macron, quelle France vous voulez ?
Une France totalement solidaire et réconciliée. Parce qu'il y a vraiment des tensions dans notre pays. Et on ne se réconcilie pas en donnant des leçons sur les plateaux de télé, mais en faisant des choses ensemble. Voilà. Donc moi, j'aimerais qu'il y ait 5 ou 6 grands programmes, ou 7 à définir, qui soient les programmes de la nation tout entière, qui mobilisent et le gouvernement, les partenaires sociaux, qui gèrent, je vous rappelle, 2,5 fois le budget de l'État, les collectivités locales, les citoyens, les associations et les entreprises. Alors, un plan jeunesse, des tout petits jusqu'aux 2 millions de mamans isolées, qui gèrent les 2-3 ados en travaillant à mi-temps dans des conditions épouvantables. Toute la chaîne. L'apprentissage, mais pas cette espèce de phrase. Non, non, un truc absolument massif. 6 à 7%. Demain, on passe de 400 000 à 1 100 000, 1 200 000. Des emplois francs à toute vitesse. Mobiliser les associations. J'ai travaillé avec les zèbres et les faiseux, vous savez, d'Alexandre Jardin. Ouais. Voilà, toutes ces associations extraordinaires qui font ce que finalement les pouvoirs publics peuvent pas faire, vous savez, dans les plis de la robe. Bon, donc, mobiliser. Vous avez ça. Vous avez... révolutionner les achats en France par grande surface, etc. Donc vous avez la réindustrialisation de notre pays, la recherche, vous avez des moi je voudrais que justice, notre système judiciaire est ankylosé. On a mis texte sur texte, faut être agrégé de bureaucratie pour pouvoir suivre les procédures. Faut prendre un huissier, un avocat, un magistrat, un greffier, dire bon, comment on simplifie dans les libertés de chacun? Il faut supprimer les tribunaux du roi. Voilà, il y a 5-6 chantiers de toute la nation. Parce que le président, il n'est pas le chef du gouvernement, il n'est même pas le chef de la majorité. Il doit être l'incarnation d'un pays qui se met
Macron,
en mouvement.
Voilà. On reconnaît lui-même France... qu'il aura une montagne à gravir au lendemain de l'élection.
Oui.
Président. En attendant, il y a un rendez-vous, c'est tous les 5 ans, c'est le débat de l'entre-deux-tours. Contre Marine Le Pen, on a vu les invectives de ces dernières heures. On s'attend donc à un débat musclé, peut-être sans doute dans la grande tradition de ces débats d'avant second tour. Est-ce que vous pensez que ce genre de débat peut être décisif à 4 jours de ce second tour, à vos yeux, crucial?
Comme je l'ai pas vu, comme je ne sais pas comment il va se passer, je suis bien incapable de vous le dire. C'est de toute façon, non mais c'est de toute façon un rendez-vous. Non, ce qui est vrai, c'est que Madame Le Pen est née dans la politique. Donc elle a, qu'elle ne m'en veuille pas de dire ça, il n'y a aucune méchanceté de ma part, elle est rodée à tout ça. Elle a eu le temps d'avoir des échecs, des succès, des cicatrices. Et donc, je veux dire, c'est un débatteur hors pair. Et elle va faire.
Elle va en faire qu'une bouchée, Emmanuel Macron.
Non, j'ai pas dit ça. Je dis que voilà, il y a une ancienneté qu'elle a. C'est pas sa première campagne. Bon. Et Emmanuel Macron, c'est le choix de l'audace qu'ont fait les Français. C'est le choix de la jeunesse qu'ont fait les Français. C'est vrai que c'est forcément un peu plus difficile pour lui. Mais c'est un garçon qui est construit, qui a des convictions, qui a de l'enthousiasme, qui veut fédérer et qui a, je crois, une bonne partie des vraies solutions pour notre pays.
Il a dit, si Marine Le Pen me prend pour un punching ball, je partirai au bout d'une demi-heure. En tout cas, c'est ce que lui prête son entourage.
Oui, vous savez, ça c'est comme les entourages, on me prête je sais plus quelle phrase. Moi, je veux dire...
Que ça s'est mal passé, votre dîner avec...
Voilà, c'est ça, par exemple. Moi, j'aimerais bien que la presse arrête de raconter ce qu'a dit en off un voisin du syndicat, du journalisme ou de je sais pas quoi. Bon, bref. Bon. Mais c'est pas une critique contre vous. Je vous en supplie tous.
Vous voulez qu'on
parle d'Afrique ? Arrêtons de raconter des pseudo-off de trucs. Voilà. Il y a ce que les candidats disent.
On a compris.
Vraiment, il y a des entourages autorisés. Ça, c'est autre chose. C'est des porte-parole. C'est assez compliqué aujourd'hui, dans un monde moderne, avec les réseaux sociaux, pour appeler à une grande sobriété.
Donc Jean-Louis Borloo, vous avez quitté la vie politique il y a 2 ans et demi pour présider donc une fondation sur l'électrification de l'Afrique. L'Afrique, c'est pas vraiment un sujet pendant la campagne, ça ne l'a pas été. Il se réveille un peu tard, Marine Le Pen va aller voir... un comité sur l'Afrique. Ce soir, c'est Emmanuel Macron qui y va. Quelle doit être, selon vous, la politique du prochain président de la République concernant le continent africain ?
Petite rectification quand même. Lorsque j'ai demandé au président du Parlement panafricain, Roger Nkodo Dang, de venir lancer son appel à l'Europe de Paris, de l'Assemblée nationale, ce qu'il a fait, avec un soutien très large de l'Assemblée nationale. Le ministre qui a tenu à être là pour répondre à Roger Nkodo Dang, c'était Emmanuel Macron. Deuxièmement, là, je l'avais vu à l'époque vraiment longuement. J'avais vu aussi Nicolas Sarkozy, j'avais vu tout le monde. Mais je dois dire qu'il est parfaitement au courant informé du programme et du plan, comme d'ailleurs Ségolène Royal, qui a été extrêmement active et efficace, comme Lionel Zazou, comme un certain nombre d'autres. Bon, c'est pas une affaire qui m'est personnelle. Bon. Alors moi, je suis convaincu que l'Afrique, c'est le sujet du siècle, avec la mer et les océans. Et en tous les cas, c'est le sujet de l'Europe. L'Afrique est passée de 250 millions, 1 milliard de 2 milliards et demi. C'est 40% des moins de 20 ans dans 30 ans, et c'est 25% de la population mondiale. Ce sont nos frères et nos sœurs, même langue, même culture, même géographie. C'est-à-dire, la Méditerranée est trop petite pour que notre destin ne soit pas lié. Bon. Donc, il doit y avoir une stratégie Europe-Afrique. Voilà. C'est impossible autrement. C'était le sens du plaidoyer de la Fondation, qui a permis de créer cette agence pilotée par l'Afrique, qui était depuis le début, j'en ai assez parlé ici, en accord avec l'Europe, avec des fonds, des subventions européennes, avec des commissaires européens. D'ailleurs, Madame Royal en fait partie, de cette agence. Elle a été installée il y a 2 mois, présidée par le président Alpha Condé. Ça a démarré. C'était mon vœu le plus cher. Le président Alpha Condé, président de l'Union africaine, préside cette agence. Et même au-delà de sa présence de l'Union africaine qui est tournante, comme vous savez, le conseil d'administration est constitué. Les 19 premiers dossiers ont été adoptés et financés. Il y en a 240 là dans le pipe. Voilà, la machine est lancée. Alors, elle aura ses difficultés, ses ratés, faudra s'adapter. C'est pour ça que le rendez-vous d'Abidjan, pour ça que j'attends de là ou du prochain président français d'être très offensif pour que le sommet d'Abidjan, Europe-Afrique, est le rendez-vous deux continents majeurs, 1,8 milliard d'habitants, soit pas trois déclarations de diplomates, mais des profs.
Merci.